Le journal, bonjour Laurence Thomas.
Bonjour à tous.
Et ravi d'accueillir les auditeurs de France Culture. À la une ce matin, le feu vert des députés à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Avec notamment le traçage des malades, l'opposition a voté contre. Les autres titres, Laurence ?
La question de la responsabilité pénale des décideurs qui risquent de faire débat entre les deux chambres, Assemblée nationale et Sénat. Un maire veut faire signer une décharge aux parents d'élèves. Les Parisiens doivent reprendre le travail lundi et rentrer dans la capitale avec une certaine anxiété. Reportage à Saint-Lazare dans ce journal. Et puis la maîtrise de Radio France et le Théâtre du Châtelet a proposé à tous ceux qui souhaitaient participer à un grand chœur virtuel pour interpréter la javanaise de Serge Gainsbourg. La vidéo sera visible ce soir à 18h.
Notre invité à partir de 8h20 ce matin, ce sera Raphaël Glucksmann, député européen, place publique. Question ce matin notamment sur la place de l'Europe à l'heure du déconfinement progressif. Vos questions à Raphaël Glucksmann, c'est maintenant 01 45 24 7000.
France Inter. L'Assemblée a donc validé cette nuit le système de suivi des malades en même temps que le projet de loi qui proroge l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet. Rappelons que ce système a pour but d'identifier les personnes infectées par le Covid ainsi que leurs contacts. Vive inquiétude de l'opposition qui a voté contre. À propos de la vie privée, la présidente du groupe socialiste Valérie Rabault.
Vous mettez des personnes qui ne seront pas forcément malades dans le fichier. Ça c'est quand même une première dans notre pays. Vous le faites sans leur consentement. Vous le faites sur la base déclarative de personnes qui vous disent « Eh bien, j'ai rencontré mon voisin, j'ai vu ma maîtresse, mon amant, enfin, on va avoir toute une smala dans ce fichier. » Ah ben si, c'est la réalité quand même. On peut faire du droit théorique et puis on peut aussi parler du droit pratique. On n'est pas un parlement de philosophes, nous sommes un parlement qui devons écrire la loi pour les Français. Donc moi, je pense que ce point-là est quand même une brèche inouïe dans le droit français.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a redit que ce système était le seul moyen pour briser la chaîne de contamination et qu'il visait à rajouter une brique à un dispositif déjà existant de l'assurance maladie. En d'autres termes, pas pour savoir qui couchait avec qui.
On se contrefout de savoir quelle est la nature du rapport que vous avez avec la personne. Si c'est ça le niveau de peur, elle n'est pas fondée. Mais aucun médecin ne va vous demander, vous étiez avec madame comment déjà hier, et c'était pour quel type de relation? Mais c'est pas du tout ça qui est important. Tout ce qu'on veut savoir, c'est si c'était une distance de plus de 15 minutes à moins d'un mètre. Et on va pas appeler l'épouse de monsieur pour lui dire, au fait, votre mari nous a dit que, est-ce que vous pouvez confirmer que ça s'est vraiment passé pendant moins de 15 minutes à moins d'un mètre? C'est pas comme ça que ça va marcher. Il y a quelqu'un que vous avez vu qui était malade, est-ce que vous avez de la fièvre, etc., etc. C'est comme ça que les choses se déroulent, d'accord? Enfin, vraiment, j'essaie de replacer les choses dans un contexte. On n'est pas dans Matrix, quoi.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran. Leurs députés et sénateurs vont maintenant se retrouver dans la matinée pour tenter d'aboutir à un même texte au sein d'une commission mixte paritaire, car le temps presse. Le projet de loi doit entrer en vigueur lundi matin pour que puisse commencer notamment donc le traçage des malades. Je m'engage à ne pas tenir la municipalité pour responsable en cas de détection du Covid-19 dans mon entourage proche. Voilà ce que l'on peut lire sur le mot reçu par les parents d'élèves de l'école de la Haie Pénel entre Granville et Villedieu-les-Poêles dans le sud de la Manche. Une demande adressée par la municipalité. Selon le maire, il ne s'agit pas vraiment d'une décharge de responsabilité mais plutôt d'un rappel. Il dit s'inscrire dans la démarche du Sénat. Lundi dernier, les sénateurs avaient rejeté un article du gouvernement sur la responsabilité des maires en cas de plainte des parents pour une contamination au sein d'un établissement. Le maire de la Haie Pénel, Alain Navaret, il est conscient que sa demande n'a pas de valeur légale, c'est plus un symbole pour lui.
C'est juste pour rappeler aux parents que voilà, on fait tout ce qu'on peut pour que la contamination n'ait pas lieu. Ça ne veut pas dire que je me décharge de tout, bien entendu, j'ai bien conscience de mes responsabilités. Je vous rappelle que l'accueil à l'école finalement est désormais facultatif et que chaque parent décide ou pas d'envoyer ses enfants. Je ne me fais guère d'illusions, si vous voulez, ce protocole de non-responsabilité n'aurait quasiment aucune valeur devant un tribunal, je l'entends bien. La non-signature de ce protocole n'empêche pas évidemment l'accueil d'un enfant à notre école. C'est pas une condition sine qua non. J'essaye d'être juste un bon élève de la République et c'est un petit peu compliqué. L'État dit il faut ouvrir votre école. on y va, mais voilà. Mais on ne peut pas non plus tout assumer à sa place.
Le maire de La Haye-Pénel, Alain Navaret, au micro de Pierre Coquelin. Dernière ligne droite, donc, avant ce déconfinement en France. Une grande majorité de la population s'apprête à sortir de 2 mois de confinement. Selon le dernier bilan officiel, hier soir, 26 230 personnes ont succombé au Covid-19 depuis le 1er mars, soit 243 de plus sur les dernières 24 heures. Sur les routes, évidemment, ce n'est pas un week-end férié du 8 mai comme les autres, loin s'en faut. Mais ce week-end malgré tout, et notamment parce qu'on attend le retour des Parisiens qui ont fait le choix du confinement ailleurs qu'en Ile-de-France, la circulation va légèrement augmenter par rapport aux semaines qui viennent de s'écouler. Même chose du côté des trains, car certains Parisiens doivent reprendre le travail lundi et rentrer dans la capitale, mais non sans une certaine appréhension. Timur Öztürk s'est rendu gare Saint-Lazare, une gare qui dessert notamment la Normandie.
À la sortie de la gare, Justine rassemble ses sacs et valises. Cette Parisienne, normande d'origine, n'avait pas prévu de rester aussi longtemps en dehors de la capitale.
J'étais rentrée pour un week-end qui s'est terminé en confinement de 2 mois. Et finalement, ça s'est bien goupillé parce que j'ai eu la chance de pouvoir y rester. Donc ça, c'était plutôt pas mal.
Elle a évité le confinement en région parisienne où le virus a circulé très activement et angoisse un peu à l'idée de retrouver sa vie ici.
L'appréhension de revoir plus de monde qu'en Normandie parce que c'est pas à Cherbourg que je croise tant de personnes que ça. Mais bon, le week-end va être tranquille et puis ensuite on reverra quand je reprendrai le travail lundi.
Même sentiment pour Angéline qui vient de passer 2 mois chez une amie en Normandie. Le retour n'est pas évident, sa principale inquiétude, les trajets en région parisienne à partir de lundi avec le début du déconfinement.
Au niveau des transports surtout, je pense que ça va pas être super bien protégé. Parce qu'ils disent que ça va être protégé mais je pense pas.
Mais Angéline n'a pas trop le choix.
De toute façon c'est chez nous et puis pour reprendre le travail et les activités. Donc voilà.
Elle reprend le travail dès lundi et ne pouvait donc prolonger son séjour normand.
On va aux États-Unis où un crime raciste d'un jeune jogger noir par 2 hommes blancs a réveillé les tensions raciales.
2 hommes ont été inculpés de meurtre dans cet état de Géorgie après la diffusion de la vidéo du drame il y a quelques jours, mais la justice aura mis plus de 2 mois avant d'arrêter ces hommes. La vidéo a tourné sur les réseaux sociaux et de nombreuses stars et responsables politiques avaient fait part de leur indignation. Hier, Donald Trump a qualifié ces images de, je cite, très dérangeante. Et finalement, les 2 suspects présumés ont été donc interpellés, inculpés de meurtre sur place à Brunswick, dans le sud de la Géorgie. Le reportage de l'envoyé spécial de France Inter, Grégory Phillips.
Dans le lotissement de Satila Shores, où se sont déroulés les faits, on voit encore une petite croix en bois, des bouquets de fleurs, des mots à la craie sur le bitume. Mohamed habite à quelques kilomètres. Il voulait se recueillir devant ce mémorial improvisé. Je voulais voir quel genre de quartier c'est ici. En conduisant, on voit des drapeaux et des pancartes Trump sur beaucoup de ces maisons. Ce père de famille, afro-américain, compare la mort d'Arbery à celle en 2012 d'un adolescent de Floride qui, à l'époque, avait bouleversé l'Amérique. C'est l'affaire Trayvon Martin qui recommence, mais c'est ça la réalité d'être noir aux États-Unis. La Géorgie, dont l'histoire se confond avec celle de l'esclavage et de la ségrégation, est l'un des 4 États américains à ne pas reconnaître comme circonstance aggravante le caractère raciste d'un crime. Cet État du Sud permet aussi à ses citoyens lambda de procéder à des interpellations. Je pense qu'il faut resserrer un peu cette loi, dit aujourd'hui Jeff Jones, représentant républicain du district de Brunswick, en particulier si entre en jeu l'utilisation d'armes à feu quand un citoyen tente d'interpeller un individu. Hier après-midi, devant le tribunal de Brunswick, une manifestation a réuni environ 200 personnes pour réclamer justice. Sur l'une des pancartes, on pouvait lire « Est-il illégal d'être noir et de faire son footing ?»
Allez, Laurence, on termine avec cette initiative Radio France, car depuis le début du confinement et la suspension des concerts, eh bien Radio France multiplie les initiatives pour entretenir le lien avec la musique sur nos antennes.
Après Viva l'Orchestra et Carmina Burana, ce samedi à 18h sera mis en ligne le final de l'opération Le Temps d'une chanson. Des milliers de chanteurs professionnels et amateurs ont enregistré la chanson de Serge Gainsbourg, La Javanaise, une chorale géante exceptionnelle, Jacqueline Pétrose.
Pour partager ce moment unique, Radio France et le Théâtre du Châtelet ont fait appel à leur public. Jane Birkin a donné son aval et sa voix et 4 tutoriels avaient été mis en ligne pour faire répéter les chanteurs avant l'enregistrement, comme avec la soprano Lise Borel.
Tout commence avec une introduction du piano à 3 temps. C'est une valse. 1, 2, 3.
Pour des raisons techniques, seules les 640 premières vidéos ont été retenues, mais ce sont 3600 qui ont été envoyées. Un succès qui ravit Sophie Janin, directrice musicale de la maîtrise de Radio France, initiatrice avec le Châtelet.
Cette participation, je pense que ça prouve encore que le chant, ça fait du bien et qu'on a besoin de se réunir autour de la musique. Je suis entièrement convaincue du pouvoir de la musique et on l'a vu aussi dans l'histoire. Dès qu'on a traversé des périodes fortes, que ça soit de peine ou de joie, la musique, elle accentue toujours les moments forts de la vie. Je pense qu'on a tous comme une bande originale de notre vie. La javanaise, c'est aussi une chanson qui peut réunir plusieurs générations. Les gens de tout âge ont participé. Et ça, c'était très joli.
Rendez-vous à 18h donc pour la vidéo finale. Mais rien ne vous empêche de chanter en chœur sur votre balcon ou dans votre salon.
C'est donc à 18h, le temps d'une chanson, la javanaise, sur le site de France Musique ainsi que sur la chaîne YouTube et les réseaux sociaux.
La javanaise créée par Gainsbourg pour Juliette Gréco en 1963. C'était le journal de Laurence Thomas.